écoutez le français en partage d'Albert Salon, assisté de Lydie Cassarin-Grand, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 27 septembre 2021 de 10h30 à 11h30 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers auditeurs, bonjour. Vous écoutez Radio Courtoisie, nous parlons aujourd'hui de francophonie économique et nous allons d'emblée, contrairement à ce que nous faisons d'ordinaire, pour faire aussi droit à une requête de notre invité principal que je vais vous décrire et introduire dans un instant, nous commençons par le débat. Et à la fin du débat, je ferai les fautes graves du jour et puis quelques nouvelles du combat, s'il en reste, si vous voulez, après, à traiter. Bien. Alors, nous avons aujourd'hui francophonie économique avec Yves Montenay, qui est déjà venu, chers auditeurs, à notre antenne. Yves Montenay, qui est d'abord un ancien chef d'entreprise, et ça c'est le principal, c'est ce à quoi il tient le plus, et il a raison, il en est tout à fait légitimement fier, un ancien chef d'entreprise qui a travaillé avec l'Amérique, avec divers pays, etc. Bien, c'est un universitaire aussi, un démographe et un géopoliticien. Il a enseigné à l'École supérieure de commerce de Paris, c'est Subdeco pour les intimes, vous connaissez, chers auditeurs. Il est le président d'une association qu'il appelle d'ailleurs l'Institut
Culture,
Économie et Géopolitique. Il est éditeur, rédacteur d'un bulletin électronique régulier, très nourri d'ailleurs, et très intéressant, très objectif, chers auditeurs, et qui s'intitule, vous pouvez aller sur l'internet pour le suivre si vous voulez vous renseigner bien sur le monde musulman, ça s'appelle Écho, au pluriel, les échos, Écho du monde musulman. Un blog à succès d'ailleurs. Et puis il a un blog aussi sur bien d'autres choses. Il fait souvent des articles sur la francophonie économique précisément et sur les relations internationales. Alors j'ajoute qu'Yves Montenay est vice-président d'Avenir de la langue française et au titre de l'ISEG, c'est-à-dire son Institut Culture, Économie et Géopolitique, il est membre du Haut Conseil international de la langue française et de la francophonie que nous avons créé, vous le savez, chers auditeurs, à plusieurs associations, il y en a maintenant 29 dedans, que nous avons créé en 2020. Voilà, il écrit beaucoup d'articles sur la francophonie aussi. Alors, francophonie économique, je fais une petite introduction brève, c'est très curieux, francophonie économique, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Commonwealth économique ? De faire un Commonwealth économique ? Non. Pourquoi ? Parce que dans Commonwealth, il y a déjà la richesse et l'économie, en fait. Et que, c'est l'économie, elle est inhérente, si vous voulez, au Commonwealth. Cela dit, il faut quand même insister un peu sur cette différence essentielle. Alors certes, le Commonwealth britannique, ancienne colonie britannique, bien sûr, l'Empire, hein, « the Empire », les deux constructions, Commonwealth et francophonie, sont d'abord des constructions éminemment politiques, l'une et l'autre, c'est bien évident. Et politique, construction voulue à la fois par les anciennes métropoles, bien sûr, Londres et Paris, et et il faut insister là-dessus, par les participants. Beaucoup de gens du Commonwealth, lors de l'indépendance, c'était pas seulement sous pression, si vous voulez, de Londres, qui leur disait « il faut qu'on garde des liens ». Non, 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 il y avait beaucoup de gens qui étaient très... Beaucoup de pays, anciennes colonies britanniques ou anciens protectorats, ou etc., qui étaient désireuses de garder, et pas seulement les gens de langue maternelle anglo-saxonne, comme le Canada, l'Australie, etc. Non, 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 non. Beaucoup étaient désireuses de... Eh bien, même chose pour la francophonie. Voilà. Simplement, les deux ne sont pas basés sur la même notion autre que politique, fondamentale, soit l'économie, soit la langue et la culture. Alors en fait, il faut bien savoir que la grande différence, elle est là, certes, c'est que le Commonwealth, c'est d'abord, après la politique, le lien économique qui lie ensemble les membres, alors que la francophonie est liée d'abord par la langue et la culture et le dialogue des cultures. Chose intéressante, ça n'existe pas vraiment pour le Commonwealth. Cela dit, vous avez maintenant la différence essentielle entre les deux. Cela dit, il faut quand même nuancer. Il est bien certain que dans le Commonwealth, il y a aussi, à côté de l'économie qui est largement dominante, il y a aussi les liens linguistiques évidents, bien sûr, de l'anglais, et les liens culturels. Bon. Mais, et en francophonie, à l'inverse, il existe bien sûr des liens économiques et commerciaux qui ont perduré longtemps et qui perdurent aujourd'hui même, à côté de cette pondération forte en faveur de la langue, la communauté de langue française de l'ancienne métropole, si vous voulez, et de la culture et du dialogue des cultures. Voilà. Alors, nous en sommes maintenant à nous adresser à notre invité. Yves Montenay, vous êtes un militant de la francophonie internationale, principalement dans votre domaine de l'économie et du commerce et des entreprises. Et je voulais signaler que c'est déjà à ce titre que, quand vous étiez jeune ami, lui était moins jeune, mais comme moi, du paladin du français et de la francophonie qui était Philippe Rossillon, jusqu'à sa mort le 6 septembre 1997, voici 24 ans maintenant, de notre inspirateur commun, il faut bien le dire, vous fûtes envoyé par lui en mission dans vos domaines, notamment au Québec et au Canada. Alors, je voudrais commencer avec vous en traitant de la définition à donner de la francophonie économique. Et pour introduire ça, je voudrais vous dire qu'une autre militante de la francophonie, membre d'ailleurs, une ancienne de la Banque de France, membre d'ailleurs du Haut Conseil, comme vous et moi, de la langue française et de la francophonie, m'a envoyé une fiche de lecture, mais juste il y a quelques jours seulement, une fiche de lecture de l'article, d'un article qu'elle a qui était intitulé « Quand francophonie rime avec économie ». Il s'agit de Nadia Antonin qui m'envoie sa fiche de lecture, mais ce qu'elle a lu, c'est un rapport, un article, plus exactement, publié en août 2021 par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE pour les intimes. Et cet article s'intitule « Quand francophonie rime avec économie ». Alors, en préambule, l'article donne une définition de la francophonie économique. Deux points. Ce concept désigne à la fois la capacité à développer des affaires en français, ça va de soi, hein, je pense, mais ils ajoutent, et l'OCDE ajoute dans sa définition, mais aussi à promouvoir une économie plus équitable, durable et inclusive afin de servir les populations et de contribuer au mieux-être commun. Équitable, durable, inclusive, voilà trois termes très à la mode aujourd'hui que l'OCDE a tenu à rajouter. Yves Montenay, que pensez-vous de cette définition-là? En avez-vous une autre?
Bonjour, monsieur. Bonjour.
Bonjour. Donc, cette définition, elle se tient parfaitement debout. Elle s'accessoire à la mode, bien sûr, avec l'usage des mots en question. Mais c'est peut-être politiquement nécessaire pour éviter toutes les accusations de néocolonialisme et autres suprématismes blancs qui sont très à la mode aujourd'hui et qui, j'espère, ne resteront pas longtemps. Il y a des modes intellectuels...
Non, ça va disparaître. Oui. Heureusement, il y a... Heureusement, il y a des contre-attaques.
Donc, c'est... la définition est bonne, et puis il y a un petit appel à la mode pour que ça passe mieux peut-être en Afrique. Alors, vous avez tout à fait raison de distinguer la francophonie basée sur la langue et la culture, et le Commonwealth qui par définition est Wales. Alors, ça nous mène à une réflexion sur qu'est-ce que la francophonie économique. Et pour les Anglais, d'abord, ça va de soi. On est... sur terre pour faire du business. Le business et les affaires en français, mais c'est la même chose, sont faits pour le bien commun, c'est évident. Elles peuvent pas être faites par un gouvernement, c'est trop rigide, trop compliqué pour le gouvernement que de faire. Donc c'est fait par des entreprises autonomes. Et tout ce que peuvent faire des gouvernements, c'est d'ouvrir des portes aux entreprises. Donc ça, c'est un point de vue tout à fait anglo-saxon classique, et qui n'est pas sans valeur, puisque le monde anglo-saxon a relativement bien réussi économiquement.
Oui.
Alors, on est loin, évidemment, de la francophonie, qui a été vue au départ comme quelque chose de politique, par des gouvernements africains en l'occurrence, et qui met l'accent, comme son nom l'indique, sur la langue. Voilà. Alors, et c'est évident que pour les Anglais, la langue est un effet à la fois nécessaire, mais aussi une conséquence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les entreprises se rencontrent et travaillent librement entre elles, et qu'elles le font en anglais, ça ne peut être qu'excellent pour la langue anglaise. Voilà. Donc, pour eux, la langue, c'est très important, bien sûr, mais c'est autant une conséquence qu'une cause. Alors que pour la francophonie, c'est plutôt une cause.
Très juste.
Alors, maintenant, j'en reviens
à l'histoire.
Ce qu'on n'est pas la francophonie économique avant de passer à l'histoire. Une partie d'entre nous, des militants du français, sont soit des fonctionnaires, soit des juristes, soit des politiques, ou quelquefois les trois, et ils ont tendance à penser que quelque chose est une organisation, quelque chose existe, il y a une personnalité morale, si ça existe juridiquement, s'il y a un traité. Ben, c'est pas, on a vu déjà que ce n'est pas le cas du Commonwealth, et ce n'est pas tellement le cas non plus de la francophonie économique. Et si on commence à la définir d'un point de vue un peu juridique ou institutionnel, elle va se guider, parce que les entreprises auront peur. C'est un ensemble, c'est évident pour les anglophones, mais c'est moins évident pour les francophones, c'est un ensemble qui vaut ce que vaut ses membres. Et ses membres, ça peut être aussi bien un expert comptable à cheval sur le Sénégal et la France, que les grandes entreprises de Bolloré, qui gèrent beaucoup de ports africains et qui est mal vue de certains, mais qui est bien vue par d'autres. Et c'est donc quelque chose qui est insaisissable sur le plan juridique et réglementaire, et c'est bien comme ça. Sinon, ça ne se passerait pas. D'ailleurs, encore une fois, le Commonwealth ne se pose pas la question, il ouvre les portes, il laisse faire et il pense que ça emporte tout le reste. Alors maintenant, un peu d'histoire, puisque vous me le demandez. Bien sûr, surmonter la colonisation, et même avant, parce qu'une ville comme Saint-Louis, qui était aujourd'hui au Sénégal, mais qui était une ville française, à encadrement français... C'est une très vieille commune française, qui a fait sauf erreur des cahiers de doléances en 1789.
Eh oui.
Et cette commune, elle existait pour des raisons commerciales. C'était pas une base militaire contre les tribus sénégalaises, puisqu'à l'époque, le Sénégal en tant que pays n'existait pas. C'était une base commerciale, alors avec le meilleur et le pire, puisque sans en avoir de traces précises, je pense qu'il y avait le commerce des esclaves qui était florissant. Alors, on parle en général de l'île de Gorée à Dakar, mais je soupçonne qu'à Saint-Louis, c'était un peu pareil.
Je fais juste une parenthèse, si vous me le permettez, à propos de ça, mais c'est une parenthèse très rapide, mais qu'il faut faire de temps en temps rappeler à l'antenne de Radio Courtoisie, c'est que le trafic qu'il était fait entre les Français, bien sûr, enfin entre la puissance qui avait son comptoir, puis ensuite sa colonie, et des locaux. C'est-à-dire, c'est eux qui allaient chercher les esclaves qu'ils avaient conquis dans des guerres, qu'ils avaient fait prisonniers, etc., et qui les vendaient, n'est-ce pas ? C'était vendu par des autorités locales. Nous n'allions pas chercher dans le fond de la brousse pour les ramasser des esclaves, n'est-ce pas ? C'était un commerce, effectivement.
Voilà. Alors, pour préciser encore cette parenthèse, il y a beaucoup de confusion en France. L'époque des comptoirs avec commerce des esclaves, ça s'arrête au début du 19e. La colonisation, ça commence à la fin du 19e. Et à ce moment-là, les colonisateurs français, anglais et autres ne sont plus des esclavagistes, et au contraire, où la colonie avance, on interdit l'esclavage, et notamment on stoppe l'esclavage génocidaire des Arabes, un peu à travers le Sahara, vers le Maghreb, principalement vers l'Arabie et le Moyen-Orient, via Zanzibar, le futur Kenya, etc. Donc je ferme ma parenthèse, ça nous éloigne de la francophonie. Et donc, des origines qui remontent très loin, et qui évidemment se sont développées pendant la colonisation, mais ce développement de la francophonie économique n'est pas totalement positif à mon avis, parce que les entreprises avaient l'impression d'être un peu en chasse gardée, de demander l'appui du gouvernement. Enfin, ce n'est pas, on est loin du Commonwealth, c'est des entreprises qui sont assez grandes pour se débrouiller toutes seules, et éventuellement en terrain ennemi.
Très juste votre remarque, c'est très important ça, oui.
Alors, il y a eu une deuxième étape après les indépendances, qui est la coopération. Alors cette coopération, elle a été tous azimuts, économique, culturelle et surtout scolaire, mais le côté scolaire, éducation, universitaire, a pris quand même le pas sur la coopération économique. En plus, cette orientation, toujours la même, a été aggravée parce que certains pays ont cru, du fait de la mode de l'époque, qu'il fallait socialiser, nationaliser certaines entreprises, et c'était des entreprises françaises, puisqu'on sortait de la colonisation. Donc, une partie de la francophonie économique a été détruite par des nationalisations. Ça a été très aigu à Madagascar, qui s'en est jamais remis d'ailleurs. Ça a été plus modéré au Sénégal, mais ça a cassé une partie des liens économiques. C'est donc une étape avec ses ombres et ses lumières, coopération culturelle, ce qui est la base pour les emplois francophones, mais pour le reste, un décrochage économique.
Mais il y avait quand même la coopération pour le développement.
Oui.
Et il y a toujours d'ailleurs la coopération pour le développement.
Tout à fait, mais je suis frappé. Alors, mon expérience de chef d'entreprise n'est pas totale, je ne suis pas allé partout, je n'ai pas discuté avec tout le monde, mais quand même, l'attaché économique, j'ai oublié le nom exact, c'est plutôt quelqu'un qui essaie de se renseigner à travers des chefs d'entreprise sur ce qui se passe pour faire son rapport, que quelqu'un qui a l'habitude des affaires et qui aide les chefs d'entreprise. Alors, il les aide un peu, en sens qu'il donne un carnet d'adresse, il dit qui, vous avez intérêt à vous rapprocher de la chambre de commerce, ça on y pense tout seul, mais ce n'est pas vraiment son souci, ce n'est pas vraiment sa formation.
Oui, mais la coopération pour le développement, c'était aussi, enfin dans la période faste, sous De Gaulle en fait, concrètement, sous De Gaulle et encore sous Pompidou, la coopération pour le développement, elle était riche, elle était abondamment pourvue en crédit, et beaucoup, enfin une partie non négligeable, allait sans les infrastructures, et pas simplement les infrastructures scolaires, mais les infrastructures aéroportuaires, routières, portuaires, etc. Et ça, c'était de l'économie aussi quand même.
Oui, mais alors c'est pas ça que je pensais. En parlant, je pensais aux aventures d'un chef d'entreprise qui va en Afrique et qui essaie de s'implanter. Au Canada, c'était pareil d'ailleurs, puisque j'ai implanté mon entreprise au Québec. Et c'était un peu pareil.
Oui, j'y faisais allusion tout à l'heure.
Les cadres des ambassades françaises ne sont pas vraiment, vraiment des gens du monde des affaires, c'est comme ça.
C'est une constante culturelle de notre histoire. Certes.
Alors, par contre, tout ce qui est aide au développement, alors ça c'est étatique, c'est administratif. Ça, ça a bien marché, effectivement, comme vous venez de le dire. Et, alors ensuite, j'avance dans l'histoire, il y a eu ce qu'on appelle la mondialisation, qui est un phénomène éternel, mais qui a pris de l'ampleur à cette époque-là, et le patronat français, sous la direction de M. Périgot, est tombé dans la mode, qui était d'une part nécessaire, mais ça ne devait pas se résumer à ça, qui était de dire pourquoi les pays francophones, pourquoi pas les autres, faisons comme tout le monde, allons en Chine, allons partout. Toutes ces considérations de politique locale pour des pays qui sont pauvres, difficiles, etc.
Et où le marché est étroit.
Ça devient secondaire, voilà. Pauvre et peu peuplé, ça veut dire marché étroit, effectivement. Alors, Donc, il y a eu un désintérêt. Alors, qu'est-ce qui fait que ça a tenu plus ou moins dans certains pays? Je vais prendre l'exemple du Maroc, que je connais particulièrement, où ça a été particulièrement efficace. Il y a eu un cercle vertueux, un entraînement que j'appelle formation entreprise et médias. Il y a des entreprises françaises.
Est-ce que vous me permettez de vous interrompre et de revenir sur le point là de cette négligence française à haut niveau, hein, dans les cadres supérieurs privés et publics, hein, bien sûr. Il me semble qu'il y a eu effectivement un moment, et j'en ai été témoin, j'étais au ministère de la Coopération dans les années 90, entre 90 et 98, 19. En 97, nous préparions le sommet francophone de Hanoï,
oui,
au Vietnam.
Je me souviens très bien, oui.
Bon. Auparavant, au ministère de la Coopération, nous étions quelques-uns à pousser un petit peu l'idée de faire un peu plus de francophonie économique, précisément. Et nous rejoignions en cela les Québécois, qui y tenaient beaucoup, et qui poussaient les Français faire un petit peu, un peu du Commonwealth, si vous voulez, qu'ils voyaient fonctionner, eux, de leur observatoire américain. Nous y sommes parvenus, nous avons réussi avec les Québécois à convaincre tous les gens qui préparaient le sommet francophone de Hanoï, et les Vietnamiens y tenaient beaucoup, ils voyaient le marché africain, non seulement pour vendre leur riz, mais pour vendre déjà aussi un certain nombre de produits industriels qu'ils faisaient très bien, et les Vietnamiens sont très forts sur ce plan aussi. Bien. Alors, tout cela réuni a fait que finalement, au sommet francophone de Hanoï, il y a eu le thème de la francophonie économique. On en a parlé, certes. On a même décidé, mais tout ça, on sentait bien que la France, moi je le voyais très bien, la France, enfin les milieux français censés être les premiers concernés, traînaient les pieds. Bon, eh bien, nous l'avons vu ensuite. Il y a eu une décision prise au sommet de Hanoï de faire, effectivement, il faut faire de la francophonie économique, on est tous d'accord. On va faire pour ça, l'an prochain, à Monaco, tenez, pourquoi pas, on va faire une réunion des ministres des finances et de l'économie du pays francophone. Ça a eu lieu, effectivement, à Monaco, en 1998. Ça a été présidé par Strauss-Kahn, le ministre de l'économie et des finances de l'époque, puisque c'était pas présidé par les Monégasques, mais c'était Strauss-Kahn qui officiait en fait. Il n'est rien sorti, on s'est arrangé, il y a eu une sorte de quasi-sabotage, on s'est arrangé pour qu'il ne sortît rien ou presque de cette conférence ministérielle. Après, silence total pendant, je dirais, une quinzaine d'années, jusqu'à ce que vienne je rejoins ce que vous faites de l'histoire, en 2013, ce qui s'est passé et que vous savez, et en 2014, le rapport Attali. Voilà, je fais ça, si vous voulez, ça illustre bien ce que vous disiez de ce mépris, mais cette ignorance, cette incapacité, cette incompétence, en fait, des grandes autorités françaises en matière de francophonie économique.
Alors,
je
suis tout à fait d'accord, et je voulais présenter un des rares succès de l'époque, qui est menacé aujourd'hui, qui est le Maroc. Pourquoi le Maroc est resté dans la francophonie économique, contrairement à presque tous les autres pays? Premier point fondamental, la révolution plus ou moins socialiste du pays n'a pas été menée très loin. C'est-à-dire que le roi a fait attention à ce qu'on ne chasse pas en bloc toutes les entreprises françaises et qu'elles aient 2 ans pour trouver un associé marocain. Enfin, les mesures ont été plus douces, donc une partie de la base est restée. À partir du moment où une partie de la base est restée et où les cadres étaient formés en français, les entreprises, qu'elles soient françaises ou marocaines, et souvent mixtes, et travaillent en français. À partir du moment où elles travaillent en français, et à partir du moment où l'éducation nationale a été arabisée, ce qui est une erreur fantastique que les Marocains admettent aujourd'hui, ce sont créer toutes sortes d'écoles privées, mais d'écoles privées ras du terrain pour trouver de l'emploi. Hein. C'est-à-dire, en France, on connaît bien les écoles pigées, qui sont représentées au Maroc, et il y avait partout des écoles de secrétariat, d'informatique, etc. Il y avait, et il y a encore. Et donc, tout ça, tous ces Marocains ont été formés en français, parce que leurs employeurs étaient francophones, français, puis de plus en plus marocains, mais marocains francophones, tout ça forme un tout. Et ensuite, les médias d'affaires, c'est-à-dire l'économie, les échos d'affaires, etc., l'équivalent des échos en France, se faisait donc en français. Et donc les gens lisaient en français, et pas seulement des notes de service, mais aussi une littérature de plus en plus générale, et puis ça continuait quand on s'intéressait par des livres, etc. Donc il y avait un cercle vertueux, il y a toujours un cercle vertueux, que j'appelle formation, entreprise et médias. Alors, c'est très efficace, c'est une des raisons qui explique pourquoi le Maroc et la France sont en grande synergie économique, mais ça a un point faible, c'est que le jour où les Marocains se mettent en tête de dire « Ah, mais dans l'entreprise, on parle aussi anglais maintenant, les entreprises américaines, il y a des entreprises françaises qui suivent la mode de parler anglais, il y a… »
Eh oui, nous sommes trahis toujours par les nôtres.
Et il y a des entreprises allemandes qui travaillent en français, qui maintenant se demandent si elles ont besoin de travailler en français. Bref, tout ce monde de l'enseignement privé basique, mais c'est très important parce qu'il touche les masses. Il touche le peuple, il touche les masses, il touche le peuple marocain, peut basculer à l'anglais d'un moment à l'autre. Déjà, certains sont devenus bilingues. Le français est indispensable, certains cours sont en français. L'anglais peut être utile, on fait certains cours en anglais. Donc, ça montre à la fois comment ça marche et quelle est la faiblesse. Alors, toujours pour rester sur le Maroc, le gouvernement marocain, un des rares à être un petit peu soucieux de l'économie, parce que ce n'est pas toujours le cas en Afrique où les notions économiques ne sont pas très claires,
et
a décidé de remettre en français l'enseignement des sciences au lycée. Alors ça se met en place progressivement, parce qu'évidemment, on s'aperçoit qu'on manque de professeurs. Ce n'est pas tout de prendre une décision politique, et ça vise la France. Je vise la France aussi. Hein. Ce n'est pas tout de prendre une décision politique, c'est pas tout de débloquer des crédits, c'est la deuxième stade indispensable, mais il faut que les hommes existent. Bon, alors donc là, on est en train de recruter au Maroc des professeurs de sciences français francophones, on en trouve dans les grandes villes, on en trouve moins à la campagne, mais c'est un mouvement positif. Voilà, donc on arrive à la période actuelle où le MEDEF se réveille probablement parce que son patron ou quelques dirigeants proches du patron, M. Roux-de-Bézieux, sont un peu plus lucides que les précédents et pensent que autant utiliser, parce qu'on est entreprise, on utilise, hein, ce n'est pas péjoratif, autant utiliser des compétences francophones qui sont mal utilisées quand on les appelle anglophones, autant utiliser les compétences francophones qu'il y a en Afrique, autant pour des raisons d'efficacité, de simplicité, donc de coût. De faire attention à la francophonie économique. Mais c'est un état d'esprit, ce n'est pas une organisation, et ça ne peut pas l'être. Voilà. Et donc, tout est entre les mains de 1000 acteurs, mais comme c'est le cas dans la zone anglophone. En zone anglophone, tout est entre les mains de telle université privée, de telle entreprise privée, de tel club, de telle association de charitable, comme on dit en anglais, Charity, et dont Bill Gates est le représentant le plus connu. Je pense que Bill Gates, en tant que réaliste, il doit travailler dans la langue du pays partout où il est, je suppose. Mais bon, c'est à vérifier. Voilà. Alors donc, on a pris conscience aussi que les flux économiques et commerciaux sont importants avec les pays francophones. On a cité le chiffre de 16% du PIB mondial.
Oui, c'est le chiffre qui traîne partout.
Mais à mon avis, c'est encore plus important que ça. Pourquoi ? Parce que le commerce mondial, il comprend des choses massives comme le pétrole, le minerai de fer, par exemple, entre l'Australie et la Chine, le charbon, encore entre l'Australie et la Chine. Il comprend des choses qui sont massives en argent, mais qui, en homme, ne concernent pas beaucoup de monde. Inversement, si je reprends mon exemple de l'expert comptable de l'origine sénégalaise à cheval sur la France et le Sénégal, ça a l'air d'une toute petite entreprise, mais par rapport au chiffre d'affaires, ça touche beaucoup plus de monde. Donc la francophonie économique, c'est aussi, et c'était notamment en Côte d'Ivoire, où ça a longtemps bien marché, jusqu'au jour où il y a eu une guerre civile. Et donc,
à partir de 2002 jusqu'en 2010.
Voilà, et donc, parenthèse, les guerres civiles, c'est ce qui freine aussi la francophonie économique, parce que les entreprises n'a pas forcément envie d'aller sur place pour se faire jeter quelques mois plus tard et se faire prendre ses biens ou saccager ses biens. Donc ça c'est une chose importante, j'y reviendrai en conclusion. Donc je pense que en nombre de personnes concernées, c'est bien plus de 16%, qui est un chiffre, comme tous les chiffres, ne veut dire quelque chose si on regarde comment il est fait.
Voilà, vous écoutez Radio Courtoisie. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils écoutent Radio Courtoisie, M. Montenay.
Sur la francophonie économique. Merci Yves Montenay d'être là.
Alors je réponds à la question suivante maintenant. Et la question suivante était: quel est l'intérêt pour la France ? La France en tant qu'État et non pas en tant qu'ensemble d'entreprises. D'abord, c'est déjà un peu bizarre de distinguer les deux, puisque comme on l'a dit tout à l'heure,
tu as tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison.
Les anglophones ne distinguent pas. Et les Allemands, qui sont quand même germanophones, un peu anglophones aussi, ne distinguent pas non plus. Donc nous, on a l'habitude de distinguer. Mais même d'un point de vue, je dirais, de la nation française, de l'État français, sans la francophonie économique, beaucoup d'Africains, à commencer par les Marocains que je connais bien, ils passeront à l'anglais et le français ne sera plus une langue internationale. Donc l'intérêt pour la France en tant qu'État, en tant que nation, de la francophonie économique, c'est de rester une langue internationale. Et le français aura beau rester langue officielle, langue de culture de différents pays, s'il n'y a pas une francophonie économique derrière, une grande partie des apprenants perdront leur motivation et on verra des groupes de pression dire il faut apprendre l'anglais parce que c'est avec ça qu'on travaille.
Tout à fait voilà. D'accord. Tout à
Donc,
fait d'accord. Vous posez exactement le problème.
Voilà. Alors, je pense qu'on a fait en gros le tour des principales questions. Une autre de vos questions était pourquoi cet intérêt, on en a parlé, est-ce que ça va durer ?
Alors là... Oui, non, mais attendez, avant, je préférerais quand même revenir un petit peu sur le réveil dont vous parliez, le réveil manifesté notamment par ce MEDEF qui, en août dernier, c'est au cours de ces... Qu'est-ce qu'il faisait là déjà en août dernier ? C'était à l'occasion de quoi ? De son initiative de consacrer la francophonie économique, là. C'est son université d'été, c'est ça ?
Oui, c'était une université d'été.
Une université d'été, c'est important pour les idées. Alors, est-ce que ces idées-là, ce réveil-là, et vraiment, il suit quand même les pré-réveils dont je parlais tout à l'heure, de 2013, l'idée qui avait été émise de faire une structure un peu plus officielle, et vous avez tout à fait raison, on a eu raison de ne pas la faire, mais le rapport Attali de 1914, qui portait beaucoup sur cette francophonie économique, et qui a tout de même contribué à rêver. Il y avait aussi celui de Pouria Amir Shahi, deux rapports sur la francophonie en général, qui insistaient beaucoup, et ils ont contribué, si vous voulez, au réveil idéologique en la matière en question. Mais le réveil du MEDEF en août dernier, c'est vraiment tout récent, est-ce que c'est pour vous, à votre avis, du solide ?
Alors, ça, la question...
Parce que vous y étiez à cette université d'été.
Oui, la question renvoie au côté informel de la francophonie économique. Le MEDEF, ce n'est pas un chef d'entreprise. Le MEDEF, c'est un syndicat. Ce n'est pas les entreprises.
Certes.
C'est-à-dire que c'est chaque entreprise qui va décider. Alors, c'est excellent que le MEDEF ait donné un coup de projecteur sur l'utilité de faire des affaires en français, mais le MEDEF ne dirige, pas M. Bolloré. Si M. Bolloré veut travailler, je crois qu'il travaille en français dans l'Afrique francophone, mais si un jour il y avait un caprice, il n'obéira pas au MEDEF. Le MEDEF n'est pas un organisme hiérarchique. C'est une association. Et c'est une association d'entreprises qui font ce qu'elles veulent, chacune à leur niveau. Donc, même si le MEDEF...
Mais continue, le brassage et la diffusion des idées, c'est important. Et ça, voilà, c'est
tout
ça qui est...
Mais c'est une diffusion des idées, ce n'est pas une action à proprement parler, comme on a l'habitude,
certes.
Par exemple, dans l'aide française
d'accord.
au développement.
C'est clair.
On a l'habitude de raisonner action, budget, etc. Là, non. C'est le soutien d'une idée, c'est tout. Le soutien... le fait de dire vous devriez regarder ceci, ou ça vous serait utile de regarder ceci, c'est même pas vous devriez, c'est qu'il vous serait utile de regarder ceci. C'est plutôt ça.
Mais tous ceux qui soutiennent, quels sont ceux exactement, quelles sont les forces, plus exactement les forces d'entreprise, au pluriel, qui soutiennent cette idée-là, la poussent au sein du MEDEF, et quelles chances ont-ils de la faire se développer? Je parle bien de l'idée.
Alors, une idée, c'est informel. Une idée, ça
c'est soutenu par
bien,
qui? Par qui? Quelle catégorie d'entreprise?
Je ne sais même pas si on peut répondre à ça. Et les entreprises qui travaillent sur plusieurs pays et qui sont sérieuses font attention à leur langue de travail. Alors là, il y a deux catégories d'entreprises. Il y a celles dont je faisais partie et qui font très attention à ce que des gens travaillent dans leur langue. Et puis celles qui disent bah, « c'est plus simple de parler anglais, ça évite des complications, ça évite des traductions ». Ce qui est idiot, parce que on gagne quelques sous en simplifiant une réunion et on perd énormément en compétences, en recoupement d'idées.
Exact, exact.
Voilà. Donc, mais c'est comme ça. Et puis, il y a une espèce de propagande et de mode, les deux se conjuguent, disant, bon, l'anglais, c'est un langage universel, c'est plus simple, tout est plus simple, c'est compris dans le monde entier, ce qui est absolument faux. Je travaillais dans 12 pays, et si je m'amusais à parler en anglais dans un pays en monde anglophone, j'étais compris par certaines personnes qualifiées, mais c'est tout. On ne peut pas travailler à la base dans une langue étrangère. Et donc, c'est quelque chose d'impalpable, et c'est difficile de dire qu'il y a une force qui fait ceci, une force qui fait cela, et donc c'est un petit peu difficile à comprendre dans la pensée française, où on a une vue un peu administrative des choses.
Bon, mais quand même, c'est un réveil, selon vous, un réveil qui n'est pas négligeable.
Ah, tout à fait.
Bon.
Tout à fait. C'était... Bon. Ça va remuer les idées. Dans le même sens, je ne sais pas si ça a un lien, mais dans le même sens, vous avez noté que le président d'AXA, qui est un Allemand...
Oui, oui j'ai vu ça récemment. Oui.
A perfectionné son français, a demandé qu'on travaille en français au sommet, alors que son précédent président français d'AXA faisait travailler en anglais.
Oui, exactement.
Donc, voilà. Donc ça montre qu'il y a quand même un souci. Deuxièmement, je rapproche ça aussi d'articles répétés, insistants, de The Economist, qui est le journal de l'élite économique des affaires anglophones, donc un petit peu méprisant pour la France, pas trop, ça change un peu, mais enfin, en gros, il y a nous, le business anglophone, et puis il y a les autres, c'est moins bien.
Oui.
Eh bien, il continue depuis 10 ou 15 ans à dire « attention ». Attention, chers compatriotes, je remarque que nos lecteurs anglais et américains apprennent de moins en moins les langues étrangères. Ils ne seront plus embauchés. Les entreprises internationales vont embaucher des gens parlant la langue du pays. Et donc, vous passerez après, alors si je pense à mes amis maghrébins, vous passerez après un cadre supérieur qui sera francophone et arabophone, et anglophone bien sûr, et vous passerez après. Donc, faites attention aux langues étrangères. Et ça m'a rappelé que j'ai croisé sur les quais de Bruxelles, dans la partie malheureusement néerlandophone de Bruxelles au nord, des Américains tout piteux, parce qu'ils disent bah, « on est obligé d'apprendre le mandarin et ça nous ennuie beaucoup ». C'est très difficile, ça nous ennuie. Bon, c'est un retour de la réalité. Et de même, à propos du mandarin, un autre entrepreneur américain qui se... plaignait du nationalisme des Taïwanais qui n'achetaient pas suffisamment de ces articles. Il dit, mais vous travaillez en quelle langue, les Taïwanais? Ben, je travaille en anglais, naturellement, je n'ai pas le temps d'apprendre le mandarin. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette idée? Ben voilà, pourquoi vous n'avez pas beaucoup de clients? Donc, il y a tous les gens réalistes, y compris chez les anglophones, commencent à se pencher sur la question.
Et alors, à ce propos, une autre question, une dernière. Les concurrences que nous subissons maintenant de plus en plus en Afrique francophone, ce qui a d'ailleurs contribué à ce réveil de nos patrons, là. Hein.
Tout à fait.
Bien sûr. La concurrence, on a la concurrence aux fesses, si je parle presque vulgairement. Hein. Et ça a quand même des conséquences heureuses de notre point de vue à nous. Bon, mais alors les autres, qui sont nos concurrents en Afrique, que ce soit les Turcs, que ce soit naturellement les traditionnels américains, anglais, allemands, et puis mais les Turcs, et maintenant de plus en plus les Russes, ils travaillent en quelle langue en Afrique francophone?
Alors, je voudrais bien savoir, et je pose la question à tout le monde. Pour les Chinois, qui sont les premiers,
oui.
sont les plus importants.
Eux, ils travaillent en français.
Ils sont les premiers fournisseurs de gazellerie. À ma connaissance, je travaille en français, mais je ne sais pas tout.
Oui.
J'ai participé à la formation d'ingénieurs chinois à Central, puisque Central a une succursale à Pékin, qui est bilingue, francophone-anglophone, probablement trilingue avec le mandarin, mais ça, je ne sais pas. Donc, les meilleurs arrivent à Paris. Ils sont bons francophones, ils arrivent à Paris et mon travail était de leur apprendre ce qui était hors programme, puisque Central, c'est un programme qui va du management à la physique et aux maths, et d'organiser leur programme, c'est-à-dire l'économie française, l'histoire de France, etc. Ce que j'ai fait de mon mieux, ce qui semblait les intéresser beaucoup. Bon, où sont-ils maintenant? C'est chinois, j'en sais rien, mais il y a une bonne probabilité qu'ils soient en Afrique. Et je ne sais plus, oui, c'est un écho d'Algérien qui me disait, ben, je parle français avec les Chinois. Mais je n'ai pas recensé, il n'y a pas de recensement disant ce qui se passe, et j'aimerais bien vérifier que les Chinois parlent en général français en Afrique. Les quelques exemples que j'ai croisés, oui, le reste, je ne sais pas.
Les Turcs, alors, ensuite, vous ne savez pas, et les Russes?
Alors, les Russes... Je ne sais pas donc
en Centrafrique, ils sont très présents en Centrafrique. Alors, qu'est-ce qu'ils font en Centrafrique? En quelle langue parlent-ils?
Je suppose qu'ils parlent en russe, sauf quelques grands cadres, parce que quand même, le russe de base de la société Wagner, c'est d'abord des biceps. Hein. C'est d'abord des biceps et un fusil mitrailleur. Le reste, ça ne m'intéresse pas beaucoup.
Oui. Hein.
Je ne vais pas vous répondre directement parce que je ne sais pas, mais indirectement, la Russie cette fois, et non pas la société Wagner, la Russie, la Turquie et la Chine font une campagne folle sur les réseaux sociaux en disant « mais pourquoi déjà vous parlez français ?» Enfin, c'est pas votre intérêt, etc. Alors, je réponds comme je peux, c'est-à-dire je fais un ou deux messages par semaine au milieu d'une marée d'autres messages, j'espère que je ne suis pas le seul. J'ai entendu que des services de renseignement français commençaient à s'intéresser à ça et à affecter des personnes aux réseaux sociaux du Mali.
Il ferait bien de le faire, effectivement.
Alors, je ne sais pas si c'est un écho vague ou si ça correspond à une mission précise de quelques personnes, mais il y a, sur le plan linguistique, une propagande forte et qui est appuyée par des bourses. C'est-à-dire qu'il y a des bourses pour... se former au mandarin en Chine, surtout les journalistes. La Chine cible très bien les journalistes. Alors donc, venez vous former au mandarin en Chine,
oui.
Venez vous former en turc en Turquie, venez vous former en russe en Russie. Et là, il y a une vieille tradition, parce qu'une partie des cadres de l'époque socialo-communiste d'Afrique ont été formés
oui.
À Moscou.
À Moscou, oui, il y en a eu beaucoup, à l'université de l'amitié des peuples. Hein.
Et c'est ça. Donc, il y a une, non pas une tradition, mais il y a quand même des racines à cette action linguistique.
Bon, très bien.
Et puis, il y a un argument qui n'est pas linguistique du tout, mais qui est très pratique et très utilisé en Afrique, c'est la corruption. Et les entreprises, aussi bien américaines, là, je ne veux pas dire du mal des Américains, hein, les Américains, comme les Français, sont des peuples relativement moraux, donc ils ont des lois chez eux, à Washington et à Paris, qui interdisent la corruption, y compris à l'extérieur. C'est-à-dire que si Bolloré était pris la main dans le sac d'avoir donné une partie, quelques pourboires à un dirigeant africain pour avoir la concession de tel port, je ne veux pas savoir si ça se passe, je ne veux pas le savoir, et bien, si un plaignant africain ou français, parce qu'il y a des Français un peu fous dans ce domaine, et porter plainte en France, il pourrait, et qu'il avait des preuves, bien sûr, il pourrait peut-être gagner. Donc, les Français et les Américains, et probablement les Allemands et d'autres, n'ont pas certaines armes que les Chinois, les Turcs et les Russes ont.
Mmh.
Et ça, ça compte.
Bien, autre question rapidement, avant de terminer pour le débat, parce que je vais passer ensuite à quelques fautes du jour à traiter. Il y a aussi, dans le réveil, l'OIF elle-même qui se met, et je trouve que c'est intéressant, qui se met à parler des pionnières de l'entrepreneuriat francophone et de viser donc le développement des entreprises lancées ou à développer, si vous voulez, bien sûr, par des femmes en Afrique. Alors, on connaît déjà les Mama Bens du Golfe du Bénin, de l'ensemble du Golfe, hein, au Togo, oui. Au Bénin, même en Côte d'Ivoire un petit peu, etc., où les femmes, il y a des femmes très, très entreprenantes, etc. Et l'OIF s'est aperçu de cela, heureusement, et a fait tout un programme. Naturellement, les moyens financiers de l'OIF, puis ça reste une OIF, une organisation internationale. Bon, mais enfin, c'est quand même une initiative que je trouve intéressante. En effet, jouer les femmes, ça, les Turcs savent moins bien faire, non ?
Tout à fait. Alors, je suis deux fois favorable à ça, une fois tout court, tout ce qui peut développer l'entrepreneuriat francophone, c'est bien. Et deuxièmement, le rôle des femmes en Afrique est important. Et pourrait l'être
beaucoup plus.
Et pourrait l'être encore plus.
Absolument.
Et c'est vraiment un pilier. Les femmes sont des piliers linguistiques. On l'a vu pour le français en Amérique latine. Alors, je vais accélérer pour juste parler d'avenir une seconde. Et je suis optimiste de tempérament, mais je suis bien conscient que mon optimisme suppose deux conditions. Premièrement, la stabilité politique, et alors ça en Afrique c'est quelque chose, parce qu'en Russie et au Vietnam, qui étaient deux pays largement francophones, les révolutions communistes ont balayé le français. Donc, première condition nécessaire, la stabilité politique. Deuxième condition nécessaire, ce qui se passe en France. C'est-à-dire que quand je débat au Maroc sur l'utilité du français et qu'on me dit « Oh là 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 là, en France, vous êtes en train de passer à l'anglais », évidemment, ça m'attaque par derrière. Donc, ce qui se passe en France sur le plan de la lutte que mène le Haut Comité et Avenir Langue Française, ça compte énormément partout, et même en Afrique. Et réciproquement, ce qui se passe en Afrique va compter énormément pour la France.
Bien. Eh bien, écoutez, je crois que nous pouvons peut-être conclure. Vous souhaitez donner une conclusion
ou j'en, eh bien, là, ou voilà j'en ma donne conclusion. Une. C'est optimisme à condition qu'il y ait une stabilité politique et qu'en France, on fasse notre devoir normal.
Monsieur Montenay, est-ce que vous avez pour nos auditeurs un de vos ouvrages à leur conseiller en lecture ?
Alors, ce qui par ouvrage, j'entends des livres. Il y a mon livre qui s'appelle « La langue française, arme d'équilibre de la mondialisation », publié aux Belles Lettres en 2015.
Très bien.
C'est un livre, ça devrait être évident, mais je préfère le dire, c'est un livre très clair, pas universitaire.
Oui, il est très bien ce livre et je vous le recommande vigoureusement, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Et je vous remercie d'avoir été à l'écoute, mais je n'en ai pas terminé tout à fait. Je remercie surtout Yves Montenay, je ne sais pas s'il reste à l'antenne, mais en tout cas on en a terminé avec le débat. Et je le remercie de ce débat très riche, hein, très riche. Merci Yves Montenay. Et je passe maintenant très rapidement, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, à quelques fautes graves du jour.
Merci monsieur. Merci.
Alors, tout le monde fait des fautes en France, même des gens censés en faire très peu, voire pas du tout. J'ai écouté l'autre jour dans le débat d'Éric Zemmour avec Mélenchon que Éric Zemmour nous a fait une faute de français. C'est rare chez lui, pour ça que je vous dis attention. Il a lui aussi confondu, j'en ai parlé plusieurs fois à cette antenne déjà, le « il en va » en allée de, « il en va » ou « il y va ». Je le rappelle, chers auditeurs, il le faut, et il ne m'écoute pas, Éric Zemmour, mais je lui dirai un jour, parce que je veux le voir bientôt, et je l'invite d'ailleurs à cette antenne, pour parler des aspects français francophonie, parce qu'il s'y intéresse en plus, hein, vraiment. Alors, « il en va », c'est la communauté de sort. Hein, je vous rappelle par exemple la phrase du général de Gaulle, « il en va ». Des jeunes filles comme des roses, elles se fanent. Voilà, c'est une communauté de sort. Alors que il y va, c'est le risque, l'enjeu. Hein. Si je fais des fautes moi-même en français à cette antenne, il y va de ma réputation. Hein. Je suis fichu. Bon, si je fais des fautes graves et si je les répète en plus, bon, voilà. Alors ça peut arriver, hein, mais il y va de ma réputation. C'est l'enjeu, c'est le risque. Voilà, je passe là-dessus, vous le savez déjà. Ensuite, eh bien, chez nos plus hauts responsables, j'ai entendu encore la confusion entre ils ont convenu et ils sont convenus. Il y a une toute petite différence, c'est un S, mais ils changent tout. Ils ont convenu et ils sont convenus ont deux sens tout à fait différents. Ils sont convenus, c'est ce qu'on doit dire et qu'on ne dit pas assez, on dit trop, ils ont convenu pour ce que je vais vous dire maintenant. Lorsqu'on vient de prendre une décision à plusieurs, on dit les gens qui ont pris cette décision sont convenus de se réunir la prochaine fois, de se réunir en 98 à Monaco pour parler entre ministres des affaires économiques, des affaires de francophonie économique. Vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont convenus de faire ça. Bon, sont convenus. Et d'ailleurs, l'expression existe en allemand. On dit en allemand « sind zusammengekommen ».« Sie sind zusammengekommen », ça veut dire « ils sont venus ensemble ». Il y a l'idée de s'être réunis pour décider ensemble, pour prendre une décision commune. Voilà, c'est important. Alors qu'ils ont convenu, ça veut dire que c'est aussi d'une certaine façon le résultat de gens qui sont venus ensemble, si vous voulez. Ils ont convenu, forcément. Mais ça veut dire qu'ils se sont... ça veut dire qu'ils ont adopté une concession. C'est une concession. Ils ont convenu qu'effectivement, ils avaient eu tort de ne pas prévoir une réunion à Monaco en 98. Voilà. Ils ont convenu, oui, j'ai vrai, j'ai tort. J'en conviens, j'ai eu tort. Voilà. Ensuite, très vite, des rappels de pilori antérieure. Là, d'ailleurs, vous ne dites pas, chers auditeurs, surtout pas, j'espère, la robe que j'ai faite faire. On entend ça trop souvent. Alors, pourquoi est-ce que c'est faux? C'est ça qui est intéressant. Vous sentez bien qu'il y a une différence entre « elles se sont faites belles », « es » à la fin de « faire hein, », du participe passé du verbe « faire », et « elles se sont fait coiffer ». Quelle différence y a-t-il? Eh bien, je l'ai dit tout de suite, une différence logique, de vraie logique, donc grammaticale, évidemment. La grammaire est très logique quand elle est bien suivie, elle est très très logique. Elles se sont faites belles, elles l'ont fait elles-mêmes. Elles l'ont fait, c'est quelque chose qui ne regarde qu'elles-mêmes, Et au singulier, a fortiori, elle s'est faite belle, ça intéresse une seule personne, toute seule. Elle est l'actrice d'une seule action. La seule actrice d'une seule action. Tandis que vous vous dites, elles se sont fait coiffer, il y a deux actions, il y en a une qui a décidé de se faire coiffer, et puis l'autre qui coiffe. Il y a deux acteurs pour deux actions. Voilà, je relis ça à ce que je vous ai dit un jour, il n'y a pas si longtemps, pour certains d'entre vous, vous l'avez sans doute entendu, c'est comme se laisser plus infinitif. Se laisser. Alors, dans le participe passé du verbe se laisser, il y a une différence entre « elles se sont laissées tomber » et « elles se sont laissées insulter ». Eh oui. Elles se sont laissées tomber, ben vous l'avez trouvé, ça y est, maintenant vous l'avez, chers auditeurs, si vous avez compris la première chose avec faire, vous avez compris qu'elles se sont laissées tomber, il faut pas mettre un E à la ES à la fin. Elles se sont laissées tomber. Pourquoi? C'est une seule actrice, enfin une seule personne ou plusieurs personnes, mais qui font la même seule action. D'accord? Elles se sont laissées tomber, elles se sont laissées mourir, elles se sont laissées abandonner au chagrin, elles se sont laissées aller, à se négliger dans leur coiffure ou dans leur tenue. Voilà, elles se sont laissées aller, elles se sont laissées tomber, elles se sont laissées mourir, elles se sont laissées insulter, elles se sont laissées battre par leur mari. Voilà, c'est pas bien du tout. Voilà. Et alors que elles se sont laissées insulter, elles se sont laissées battre par leur mari, justement, parce que battre, c'est le mari qui est l'acteur. Elles se sont laissées faire, elles se sont laissées embrigader dans une action qui leur porte tort. Voilà, il y a deux acteurs, celle qui se laisse aller et celle qui se laisse faire, si vous voulez, par quelqu'un d'autre, et l'autre qui fait, l'autre qui insulte, l'autre qui bat sa femme, etc. Voilà. Donc, vous avez compris, c'est la même chose pour
le petit garçon s'est fait punir, la petite fille s'est fait punir aussi, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a puni. Voilà. Ensuite, ils se sont fait arrêter par la police, c'est la même chose. Les malfaiteurs se sont fait FAIT, il n'y a pas d'S, arrêtés par la police. Voilà. De même, j'ai encore une minute, oui j'en ai deux, bon alors très bien, la perte du don. Don, c'est ce que je m'aperçois, on entend des gens, mais à la radio ou à la télé, on entend des journalistes pourtant censés être cultivés, mais incultes en fait, ingrammatisés si j'ose dire, qui ne mettent pas le don. Ce que je m'aperçois, c'est pas la même chose ce que je découvre ou ce que je vois là. C'est un complément d'objet direct. Je découvre quoi ? Je vois quoi ? Bon. Tandis que je m'aperçois, c'est pas j'aperçois moi, mais je m'aperçois de ce que. Donc, il faut dire, le don remplaçant le de pour ne pas le répéter ou pour le mettre avant, comme pronom relatif qui remplace de, hein, la personne dont je parle, et non pas que je parle. Faut pas dire ce que j'ai peur, comme j'entends encore, même parmi les gens amis cultivés, c'est ce dont j'ai peur. Voilà, nous en avons terminé avec ça. Chers auditeurs, je conclue. La conclusion vous a été déjà donnée sur le débat de tout à l'heure, il y a quelques instants encore, avec Yves Montenay, que je remercie encore une fois s'il est toujours à l'antenne. Et je vous remercie, vous, chers auditeurs, d'avoir participé. Le mois prochain, ça sera donc le 25...
Le 25 octobre.
Le 25 octobre, nous nous retrouvons très vraisemblablement avec Marc Rousset, qui est un économiste lui aussi, mais nous en parlons sous un autre angle que la francophonie économique. Voilà, chers auditeurs, merci à vous, merci à la technique, merci à Jocelyn, c'est Jocelyn qui officie et qui a très bien officié comme d'habitude. Et je le remercie. Au revoir, chers auditeurs.
Au revoir, chers auditeurs. Merci.
Vous venez d'entendre Le Français en partage d'Albert Salon, assisté de Lydie Cassarin-Grand, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 27 septembre 2021 de 10h30 à 11h30 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission, commandez le CD-ROM pour le prix Front de Port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.